Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue sur ce plateau FIMES, section Amérique du Nord. Nous allons commencer notre réunion. Je vais demander à Papa José des États-Unis de prier pour ce commencement, s'il vous plaît.
Prions le Seigneur, bien-aimé. Dieu de gloire, Dieu de grâce, nous ne nous fatiguons pas de venir auprès de toi. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est pour cette raison que, après l'intercession, nous venons avec joie à l'écoute de ta parole. Sois béni et sois loué. Nous te demandons d'aider notre sœur à la conduite, à la direction humaine, mais que l'Esprit de Dieu puisse être en elle et aussi en nous pour que nous partagions ta parole avec toi. Merci pour tout ce que tu vas faire ce soir encore. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.
Amen. Merci beaucoup, bien-aimé pasteur José des États-Unis, pour la prière. Et bien, pour les frères et les sœurs qui viennent de nous rejoindre, bonsoir et bienvenue encore devant la présence de notre Dieu sur ce plateau fumé section Amérique du Nord. Ce soir, nous allons méditer la parole dans le livre de Paul aux Romains chapitre 9. Nous allons commencer, bien-aimés, à partir de verset 14 jusqu'au verset 33. Pour cela, je vais demander à notre sœur, notre frère plutôt, le frère qui a prié, c'est la sœur Agnès. Est-ce que vous pouvez nous faire la lecture, s'il vous plaît, ma sœur?
Merci pour la parole. Je lis dans 8 secondes. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je vais faire miséricorde et j'aurai compassion à qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, j'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi, nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, et selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où non leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. De son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Isaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous serions été semblables à Gomorre. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de juste, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. C'était la parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup, ma sœur Agnès, pour la lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, si je peux nous rappeler ce qu'on a vu hier, nous avons vu comment Dieu est le peuple qu'il a choisi. Autrement, on peut dire Dieu est souverain dans son choix. Et là, c'est notre frère Paul qui nous donnait ce sentiment à l'égard d'Israël. On peut dire aussi c'est véritablement Israël, véritable Israël selon l'élection de Dieu. Donc, pour dire que la descendance ou bien vrai enfant de Dieu n'est pas celui de la chair, mais celui selon la volonté de Dieu, selon la promesse de Dieu. C'est conformément à sa promesse, on peut dire qu'on est descendant, disons, on est vrai enfant de Dieu. Et le verset 11-12, pour moi, je peux dire que c'est un verset clé. Dieu a son plan pour choisir les hommes. Son choix dépend de l'appel qu'il a à l'air, disons, de l'appel qu'il leur adresse et non de leurs actions. Donc, c'est ça ce que nous avons vu. Nous avons tiré beaucoup de leçons, bien-aimés. Et là, nous sommes en train de continuer. La même pensée continue. Dieu est en train, disons, notre frère, Paul est en train de nous parler au travers de ses écrits ici. Continuez à voir que c'est la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui est souverain dans son choix. C'est pas à cause de nos comportements. Alors, bien-aimés, ce soir-là, nous sommes, pour mieux comprendre notre texte, nous allons la répartir en quatre, disons trois parties. La première partie, c'est du verset 14 jusqu'au verset 23. Et le titre que nous pouvons donner là, c'est le Dieu souverain et juste. Deuxième partie, bien aimé, c'est du verset 24 jusqu'au verset 29. Et nous dirons que c'est vraiment clair de voir que Dieu, il est juste envers les juifs et les non-juifs. Et quelques références que notre frère Paul nous a données, que nous verrons là. Je ne veux pas aller en détail. La troisième partie, c'est verset, disons, à partir de verset 3, verset 23. C'est être juste par la foi et non par la loi. Alors, bien-aimés, quand nous allons méditer, nous allons penser à répondre à ces deux questions que nous avons ici, question 1 et question 7. Je vais lire, bien-aimés, la question 1. De quoi ou de qui parle ce verset? Et question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, bien-aimé, sans tarder, je voudrais vous donner, il y a des bonnes leçons que nous allons ensemble, par la grâce de Dieu, découvrir à la lumière du Saint-Esprit. Et sans tarder, je veux vous donner à vous la parole, ce que nous pouvons faire, nous connaissons. Et comment prendre la parole, juste appuyer sur l'étoile et le chiffre 2. Et moi, je verrai votre main, je vais vous donner la parole. À vous la parole, bien-aimé. Oui, bien-aimé, je ne vois pas encore de main. En attendant, la modératrice parle. Bien-aimés, nous sommes au verset 14. Que dirons-nous donc? C'est la question. Pourquoi cette question que Frère Paul pose encore? Parce qu'il y a eu le verset 14. Selon ce qui est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Donc, pour dire que, est-ce que Dieu est injuste en faisant cela? Non, la réponse, c'est loin de là. Dieu n'est pas juste. La parole de Dieu nous dit, ils ont fait la référence que car il a dit à Moïse, là c'est verset 15, je ferai miséricorde à qui j'ai fait miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. C'est-à-dire, bien-aimé, que notre Dieu est souverain. Il fait ce que bon lui semble et selon le plan qu'il a déjà conçu à l'avance. Amen.
Amen.
Oui, bien-aimé, qui... Oui, nous donnons la parole au pasteur José des États-Unis. Pasteur, vous avez la parole, s'il vous plaît.
Oui, merci beaucoup, ma sœur. Le verset 16, puis l'idée commençait au verset 15. Cela ne dépend donc pas de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais uniquement de Dieu qui a pitié. Le verset 15 nous parle de pitié et de la compassion de Dieu. Le verset 16 nous dit que cette compassion de Dieu, ou bien ce pitié de Dieu, ne dépend pas de ce que l'homme fait.
Amen.
Oui. Les efforts de l'homme de faire du bien, ce n'est pas ça. Mais ça dépend du cœur de Dieu lui-même. Comment il voit les choses. Vraiment se soucier de ce que l'homme a fait.
Amen.
Alors, là, on voit sa souveraineté. Parce que si Dieu se souvenait de tous les efforts humains, l'homme pourrait dire, voilà, je mérite ce que j'ai fait.
Mm-hmm.
Oui, Dieu, à ce moment-là, n'a pas de place. Mais lorsque nous considérons totalement ce que Dieu fait de nous, voici la place à la souveraineté de Dieu. En aimant nos efforts, là, sont là, mais Dieu ne nous traite pas selon nos efforts. Nous ne changeons pas la volonté de Dieu à cause de nos efforts.
Amen.
Non. Merci.
Merci, Pasteur José, pour votre intervention. C'est vrai, la miséricorde et la compassion de Dieu ne dépendent pas de nous, mais dépendent de sa souveraineté. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous donnons la parole à Papa Thomas. Au Pasteur Thomas, s'il vous plaît, vous avez la parole.
Oui, merci, maman. C'est toujours dans le même sens du 15 et 16. Ce que j'apprends ici, c'est que je n'ai pas besoin d'être jaloux de dons spirituels qui sont placés chez un autre frère ou une autre sœur. La grâce du Seigneur sur un autre frère, ça ne peut me faire que du bien parce que cela vient de Dieu, ça ne vient pas des hommes. C'est Dieu qui équipe les frères et les sœurs. Ce n'est pas nécessaire de se battre entre nous, mais je dois accepter le don spirituel, le don matériel, financier, les dons des capacités que Dieu met chez un autre frère ou une autre sœur comme une bénédiction dans la communauté, parce que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de l'homme. C'est comme, je vois l'image de Jean, quand Jésus-Christ a ressuscité Paul à Pierre, et lui a dit qu'il prenne soin de ses brebis, on l'a rendu comme responsable. Il a dit, Seigneur, et celui-ci, Jean, qu'est-ce qui va lui arriver? Son idée était, on pensait que moi je suis foutu, mais voilà, maintenant tu m'aimais, et celui-ci, peux-tu montrer que vraiment tu l'aimais? Et, le Seigneur a dit, quel est ton problème si moi je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne? Toi, suis-moi. Donc, je trouve ici qu'aujourd'hui encore dans l'Église, il y a des péripéties. On trouve qu'un tel a un tel poste, il fallait ceci, il fallait cela. On n'a pas besoin de se battre. C'est la grâce du Seigneur. Tout chrétien a un don spirituel, au moins reçu du Saint-Esprit. Le salut est ouvert à tout le monde qui veut le prendre en Jésus-Christ. Dieu nous aime, mais il fait grâce à qui il veut sur certains dons. Cela ne doit pas créer en nous des frictions, des fracassations, mais au contraire, de l'amour et de la grâce, parce que c'est du Seigneur que ça vient, ça ne vient pas des hommes. Merci.
Amen. Merci beaucoup, mon pasteur, pour votre intervention. Nous ne pouvons pas être jaloux des dons ou d'habilités que Dieu donne aux frères, aux sœurs. Et cela ne dépend pas de nous, c'est Dieu qui donne, et Dieu est souverain, il donne à qui il veut. Ça, c'est très important, bien-aimé, pour qu'il n'y ait pas de frissons dans le travail du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Thomas, pour votre intervention. Bien-aimés, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes dans le livre de Paul aux Romains, chapitre 9. Nous avons commencé à partir du verset 14 jusqu'au verset 33. Oui, bien-aimés, nous donnons la parole au pasteur Célé. À vous la parole, s'il vous plaît.
Oui, merci, maman. Je m'excuse. Merci, maman Christine, pour la parole. Je suis au verset 17 et 18 pour montrer la souveraineté de Dieu. Dieu va parler à Pharaon en lui disant, « Je te fais monter sur le trône pour montrer en toi ma puissance, afin que soit publié sur la terre entière qui je suis. » Pourtant, Pharaon, quand il était en train de traiter durement les enfants d'Israël, il ne pouvait pas s'imaginer que c'est Dieu qui l'a fait monter sur le trône. Donc là, nous pouvons voir à quel niveau Dieu reste souverain, et le cœur de ceux qui le connaissent, et le cœur de ceux qui ne le connaissent pas, tout appartient à Dieu. Là, c'est la première leçon que je tire dans ces deux versets, 17 et 18. En même temps, nous voyons Paul qui s'assoit au verset 15. Donc, à partir du verset 15, il va utiliser les Écritures, ce que Moïse avait dit. À partir du verset 17, il va utiliser ce que les Écritures disent. Ça, c'est. Il va utiliser le texte d'Exode 9, le verset 16. Tout simplement parce qu'il est en train de montrer combien le salut est gratuit, combien la grâce est là pour chacun, et combien la souveraineté de Dieu, on n'a pas de conseil à donner à Dieu. Mais tout cela, il est en train de se baser sur les Écritures. Donc ceci nous montre que tout ce que nous faisons sur cette terre des hommes, les Écritures ont quelque chose à nous dire. Donc nous pouvons suivre cet exemple de Paul, de tout justifier avec les Écritures. Depuis la création jusqu'au dernier jour, quand Jésus-Christ va revenir prendre les élus, tout est justifié, tout est écrit dans les Écritures. Et c'est ce que Paul est en train de nous montrer. Il démontre tout, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et ici même, et nous avons vu même quand le Seigneur Jésus a été tenté, c'était le même style. Il est écrit. Amen.
Il Il est très important, bien-aimé, de connaître les Écritures et suivre ce bon exemple de notre frère Paul qui justifie tout par les Écritures. Et ça, c'est fantastique, vraiment, de le faire. C'est pour cela que nous sommes là chaque soir, bien-aimé, pour étudier la parole et justifier chaque acte que nous posons dans la vie conformément aux Écritures. Merci beaucoup, Pasteur Célé. Bien-aimé, il n'y a pas de mais. Et j'aimerais prendre le verset 17, disons, 19. Au verset 19, tu me diras pourquoi blâme-t-il encore, car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Bien-aimé, nous ne sommes pas là en tant qu'enfants de Dieu. Ce que nous pouvons faire, c'est ne pas avoir même à blâmer ou pourquoi. Même si il blâme ou quoi, dire que Dieu est injuste. Non, non. Nous avons été créés par Dieu. Nous sommes ses sujets. C'est pour cela que le verset 20 nous dit, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? La vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé? Pourquoi m'as-tu formé? » Pour dire que bien-aimé, nous avons été créés par Dieu et Dieu, il est souverain. Nous avons dit au départ qu'il a un plan qu'il a conçu et ce plan-là, il est fidèle, il fait toutes les choses pour accomplir ce plan. C'est pour cela qu'il n'y a même pas à blâmer. Pourquoi? Il a fait miséricorde à celui-ci, mais pas à moi. Dieu est souverain et il reste notre souverain. Amen. Oui, nous donnons la parole à Papa José des États-Unis. À vous, s'il vous plaît, la parole.
Oui, merci beaucoup. Je reviens au verset 19, qui fait suite à ce qui précède. Il dit, on me dira peut-être, alors, pourquoi Dieu nous ferait-il encore des reproches? Car pourrait résister à sa volonté. Parce que au verset 18, par exemple, il est dit, Dieu a pitié de qui il veut et il incite qui il veut à s'obstiner, comme le cas de Pharaon. Alors, comme c'est ainsi, le verset 19 dit, alors, dans ces cas, Dieu ne peut pas nous reprocher parce que c'est lui qui nous incite à faire du mal ou bien qui nous donne un bon cœur. Voilà, voilà c'est ce que nous pouvons dire, ce que l'homme peut dire. Que, alors, si c'est comme ça, c'est Dieu qui veut que un tel fasse ceci, un tel fasse cela. Non. C'est pour cela maintenant, au verset 20, comme a dit notre sœur, nous ne pouvons pas reprocher Dieu. Dire que voilà, Dieu a mal fait en orientant les uns à faire ceci ou en orientant les autres à faire cela. Donc, non. En un mot, nous ne pouvons pas reprocher Dieu, puisque nous sommes de l'argile et Dieu est notre potier. C'est celui qui modèle les pots et tout ce qu'il faut. Donc, nous, notre position est la position de la créature, tandis que notre Dieu est le créateur. Il a un mot à dire sur nous, mais pas le contraire. Merci.
Merci, Pasteur José, pour votre intervention. Nous sommes des créatures et Dieu est le créateur. Il est souverain. Et j'aime bien, le frère Paul a continué par le verset 21. Je parle parce que je ne vois pas encore de main. En attendant, la modératrice continue. Donc, 21, le potier plutôt, n'est pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil. Bien aimé, pour dire que ce qui est dit ici, c'est vraiment formidable. Nous sommes comme de l'argile entre les mains de Dieu, et Dieu, il est le potier. La même masse, Dieu décide que je veux faire à cette argile, cette masse, un vase d'honneur, et l'autre vase de ville, ça, d'un usage de ville. Ça, c'est Dieu qui est souverain. Donc, comme disait notre bien-aimé Thomas tout à l'heure, il n'y a pas à blâmer mon frère ou ma soeur pour ce que Dieu a fait de lui. Qu'il est levé, le don qu'il a fait, qu'il fait ceci. Glorifions le Seigneur, c'est le souverain qui décide. Amen.
Amen.
Oui, nous donnons la parole au pasteur Thomas. Vous avez la parole, s'il vous plaît.
Oui, ma soeur, je voudrais rentrer au verset que vous venez de partager, justement, le potier 21 et 22.
Mm-hmm.
Le potier, je voudrais parler de l'argile. L'argile, le potier, il le masse, ça doit être malléable. C'est-à-dire qu'il le presse, il le tourne, il met même le feu, mais à la fin, ça produit un vase. Et nous sommes l'argile. Il est dit ici qu'on est comparé, nous, à l'argile, et le Seigneur, lui, le potier. Je retire ici, c'est que nous soyons malléables. Acceptons que le Seigneur nous transforme. Acceptons qu'on nous reproche, parce que même la parole de Dieu que nous méditons aujourd'hui, la Bible dit qu'elle est inspirée de Dieu, donc c'est comme le Seigneur qui a respiré sur cette parole, mais il l'a fait pour que cette parole nous corrige, pour que cette parole nous enseigne, pour que cette parole nous instruise. Il y a le rôle que la parole vient faire. Toute parole est inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner, nous convaincre, nous redresser, nous éduquer dans la justice. Donc, je trouve ici que le Seigneur veut nous montrer que nous devons être prêts à être redressés, éduqués, enseigner et être convaincu par cette parole pour que nous marchions dans la justice. Et la raison, c'est pour que l'homme soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Donc, si nous nous appelons enfants de Dieu, moi je pense que nous devons être prêts à être moulus, à être tordus, à être transformés, à être redressés, éduqués, afin que nous ayons la forme que le potier a voulu se faire de notre vie. Merci.
Amen. Merci, pasteur Thomas. Est-ce que nous sommes prêts à être malléables entre les mains de Dieu? Bien-aimés, nous continuons. Si vous pouvez nous prendre le verset 22-23, nous allons terminer pour terminer cette première partie. Oui, ajouter des États-Unis. Si vous pouvez nous prendre le verset 22-23.
Oui. Bien-aimé, ce verset parle de la colère. Eh bien, Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance. Pourtant, il a supporté avec une grande patience ceux qui méritaient sa colère et était mûr pour la ruine. Ici, l'allusion est faite à ceux qui précèdent et la mention de Pharaon doit toujours rester là. Parce que Dieu a élevé cet homme, comme la parole nous dit, pour que sa colère, la colère de Dieu, soit manifeste.
Mm-hmm.
Tout ce que Pharaon faisait là, c'est Dieu qui a endurci son cœur. Il a endurci son cœur pour montrer
combien notre Dieu donc est puissant pour faire tout ce qu'il a fait. Toutes les plaies qu'il a montrées là-bas. Ces plaies étaient dues suite à la résistance de Pharaon. Pharaon qui ne voulait pas laisser partir les enfants d'Israël. Et après, Dieu montre encore une autre plaie. Il montre encore jusqu'à la dernière plaie, là où le roi a vu que son propre fils, le premier-né, est mort. Alors, à ce moment, il a dit, bon, que tous les enfants d'Israël aillent. Et Dieu, c'était une école difficile d'ailleurs. Dieu a fait ça pour montrer sa puissance. C'est comme ça. Et je crois que, d'après ce que nous allons aussi voir, que nous ne soyons pas endurcis. Parce que quand Dieu est en colère, c'est sa puissance qui se voit. Et si Dieu montre sa puissance contre nous, à ce moment-là, ce n'est pas bien. D'où on revient à l'idée que vient de dire notre frère Thomas, que nous soyons malléables, que nous soyons ceux qui écoutent et changent. Parce que si nous ne changeons pas, la colère de Dieu est là et sa puissance est là, ce n'est pas bien pour nous. Voilà ce que je dis ici. Merci ma soeur.
Merci papa José pour votre intervention. Que nous soyons malléables pour éviter la colère de Dieu. Bien-aimés, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes dans le livre de Paul, au Romains chapitre 9, à partir du verset 14 jusqu'au verset 33. Nous donnons la parole au pasteur Célé. À vous la parole, s'il vous plaît, pasteur.
Oui, merci, maman Christine, pour la parole. La deuxième partie, à partir du verset 24, je vois là encore quelle grâce nous avons que malgré tout ce que Dieu a préparé, malgré sa colère, malgré tout ce qu'il a supporté de son propre peuple, là où il avait choisi le peuple d'Israël, mais nous voyons maintenant les choix des païens qui interviennent. Et même le prophète Osée vient confirmer cela au verset 25. D'abord, nous qui l'a appelé. Les « nous » là, on nous dit que c'est nous d'entre les Juifs qui l'a appelé, mais aussi nous d'entre les païens qui l'a appelé. Et tout cela se confirme dans les Écritures à partir de ce que le prophète Osée avait déclaré, que celui qui n'était pas mon peuple, je l'ai appelé mon peuple. Et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'ai appelée ma bien-aimée. Quelle grâce! Ça doit vraiment nous réjouir, nous les païens, nous qui n'étions pas le peuple d'Israël, pour dire, voilà, quand tout cela se faisait loin de nous, en Israël, à la croix, et tout cela c'était pour préparer pour que nous, aujourd'hui, nous puissions être appelés fils et fille de Dieu. Quel amour et quelle grâce Dieu a tout préparé pour toute l'humanité entière. Nous y compris aujourd'hui. Les nous, là, nous, ici qui méditons les Écritures, nous sommes inclus aujourd'hui. Amen.
Nous qui méditons les Écritures, nous sommes inclus. Oh, ça c'est formidable, bien-aimé. Nous progressons. Merci beaucoup, pasteur Célé, pour votre intervention. Nous progressons. Nous donnons la parole au pasteur Thomas. Vous avez la parole, s'il vous plaît.
Oui, je suis touché par la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Pourquoi Dieu fait les choses? Dieu fait les choses pour sa gloire et démontrer sa puissance. Au verset 17, il dit que dans le cas de Pharaon, il l'avait suscité pour montrer sa puissance et que son nom soit publié sur la terre. Et puis il va nous dire que il va dire qu'on ne peut pas discuter avec lui, Dieu, parce que il a le droit de mettre et de produire un vase, verset 21, destiné à l'honneur. Il fait des vases d'honneur, il montre sa puissance, il démontre sa puissance publiée sur la terre, et puis il dit au verset 23 que il peut faire tout ça, et ce sont des vases qu'il a préparés pour préparer sa gloire d'avance. Il prépare sa gloire d'avance. Donc je trouve que finalement, dans le texte, Dieu veut montrer sa puissance et sa gloire. Alors je me dis, est-ce que dans ma vie, on peut voir la gloire de Dieu? Est-ce que comment je vis, comment je me comporte au FIMES, à l'église, partout que je pars, est-ce que la gloire de Dieu est, en anglais on dirait displayed, est démontrée? Est-ce que l'œuvre de Dieu est publiée à travers ma vie? Parce que ce que Dieu poursuit, c'est la démonstration de sa gloire, c'est la démonstration de sa puissance, c'est que le monde voit que lui est puissant et qu'il est là, il a préparé cette gloire à l'avance. Si je suis un vase d'honneur, c'est pour que cet honneur-là aille chez lui. Finalement, Jean-Baptiste va dire, que je diminue et que lui croisse, qu'on le voit lui et que moi je disparaisse. Est-ce que je vis de manière à montrer la gloire de Dieu, que les gens donnent gloire à Dieu en voyant les bonnes œuvres? Parce que la Bible dit que mes œuvres luisent, que mes bonnes œuvres luisent devant les hommes, pour qu'en les voyant, ils donnent gloire à Dieu. Est-ce que ma vie donne la gloire à Dieu? Merci.
Merci beaucoup, Pasteur Thomas. Est-ce que ma vie donne gloire à Dieu ou bien je manifeste la gloire de Dieu au travers ma vie? Ça, c'est la question que nous devons nous poser et chacun de nous a une réponse à donner, même pas au public, mais du fin fond de son cœur. Merci, Pasteur Thomas, pour la parole. Nous donnons la parole à notre Pasteur José des États-Unis, s'il vous plaît.
Oui, merci ma sœur. Puis, au verset 27, verset 27, Paul cite un autre prophète. Le premier prophète cité, c'est le prophète Osée, qui s'est adressé au peuple non-juif. Et Dieu appeler ce peuple le sien. Tandis que au verset 27, c'est le prophète Ésaïe qui vient. Le prophète Ésaïe, lui, s'adresse au peuple d'Israël en leur disant que, en gros, j'ai choisi le reste du peuple. C'est-à-dire, très souvent et toujours, lorsque le peuple d'Israël faisait du mal et que ce peuple méritait l'exil, le Seigneur gardait toujours un reste. C'est-à-dire, quelques hommes et quelques femmes qui restaient sans partir en exil. Et c'est ce reste-là qui est le souvenir des dieux pour son peuple. Que le peuple est parti, mais il y a un reste. Donc, le reste. Il y a la notion du reste et dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, le Seigneur se garde quelques personnes qui font sa volonté. Tandis que les autres, ils font du mal et sont partis en exil.
Amen.
Voilà. Donc, c'est bien de, d'être retenu parmi le reste. Et ça aussi, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu pour qu'on soit retenu parmi les restes. Merci.
Amen. Merci beaucoup. C'est la grâce de Dieu pour qu'on soit retenu parmi les restes. Bien-aimés, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes là dans le livre de Paul aux Romains, chapitre 9, à partir du verset 14 jusqu'au verset 33. Oui, nous continuons. Il n'y a pas de mais bien-aimés. Nous continuons sur cette deuxième partie. Si nous pouvons voir, bien-aimés, quand on nous parle de Sodome et Gomorre, comme disait notre frère tout à l'heure, vous savez que quand la fournaise, le feu est descendu, disons la fournaise qui a brûlé, détruit Sodome et Gomorre, c'est toute la population qui était détruite. Il n'y avait pas de reste. Pour dire que c'est la grâce de Dieu, comme a dit notre bien-aimé. Ça, c'est formidable. Ça, c'est très important de dire. Et même si on continue à résister à mes dieux, il ne faut pas dire que ce n'est pas mes propres efforts. Non, non, c'est la grâce de notre Dieu. Nous donnons la parole au pasteur Thomas. À vous la parole, s'il vous plaît, bien-aimé.
Oui, je suis touché par ce mot, le reste. Je reviens dans ça, verset 27. Et même le 29, là, il dit encore une autre parole que si le Seigneur ne nous avait pas préservé ce petit reste-là, on serait devenu comme Sodome et Gomorre. Le reste, là, en anglais, c'est remnant. C'est un petit nombre. Ce n'est pas, c'est pas grand. C'est-à-dire une poignée. C'est une petite réserve pour reprendre. Quand Dieu a tué toute la terre, les animaux, les hommes, il s'est gardé un petit reste. C'était 8 personnes, c'est-à-dire Monsieur Noé, Madame Noé, ses 3 fils et leurs 3 femmes. 8 personnes seulement. Donc nous devons comprendre que c'est important, frères et sœurs, d'être dans le petit reste qui fait le bien. Il faut être dans le petit reste. C'est dans le petit poignet là qui va à la prière, à l'intercession. Il faut être dans le petit groupe là qui est fidèle chaque soir à la méditation. Il faut être dans le petit groupe là qui est présent dans l'activité à l'église, à l'étude biblique. Il faut être présent dans l'activité d'aller évangéliser. Il faut être dans le petit reste là que quand le Seigneur tourne les yeux, au moins, il a un petit reste et toi, tu es dedans. C'est important. On ne va pas vivre la vie chrétienne en se disant les autres vont faire. On ne doit pas suivre la foule. Parce que la foule n'a pas de dirigeant. On dit seulement, non. Il faut être parmi. Même le Seigneur, il avait son petit reste. Il avait toujours Jean, Jacques et Pierre pour aller prier à côté. Nous devons avoir. Daniel avait la même chose. Il a eu un problème. Il est allé voir ses amis, Meshach, Shadrach et Abednego. Soyons déterminés d'être parmi le petit reste, fidèles. Que quand tout le monde, on ne peut pas compter, au moins le Seigneur peut se dire il y a encore un petit reste qui me reste. Il y a encore Thomas là-bas, je peux encore travailler et reprendre. Restons dans le petit reste dont le Seigneur a besoin pour reprendre, pour réveiller, pour travailler dans notre milieu. Merci.
Amen. Merci beaucoup, bien-aimé, pour cette intervention. Bien-aimé, dans le Seigneur, ce que notre Père a dit, c'est très important. La question que nous pouvons nous poser, bien-aimé, chacun de nous, mais est-ce que moi, je suis compté parmi les restes, on peut faire confiance? Dans mon église, au FUMES, quand tous les autres ne veulent pas être là, mais est-ce que je suis parmi les restes qui continuent encore à aimer les Écritures, qui continuent encore à supporter l'œuvre de Dieu, qui continuent encore à venir, qui continuent encore à appeler les... Est-ce que je suis parmi les restes? Ça, c'est formidable. Nous continuons. Merci beaucoup, Pasteur Thomas. Nous continuons. Bien aimé, maintenant, nous pouvons amorcer notre dernière, troisième partie et dernière partie. Oui, à partir du verset 30. Et nous donnons la parole au pasteur José des États-Unis, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, ma sœur. Juste un petit mot sur Sodome et Gomorre. Petit mot seulement.
Oui, allez-y.
Sodome et Gomorre nous rappelle le feu, parce que le feu de Dieu, bien sûr, parce que ce peuple s'est livré à l'homosexualité. Et ce n'est pas pour rien que cette parole est répétée dans le Nouveau Testament, même par le Seigneur, qui a parlé de ce qui est arrivé à Gomorre et Sodome, ou Sodome et Gomorre. C'est à cause du péché de l'homosexualité. Ça, c'est un point. Et le verset 30 souligne la foi, que ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est la foi, mais pas les œuvres. Les œuvres sont les résultats de la foi. Celui qui a cru ne va pas tuer. Celui qui a cru en Jésus ne va pas voler, ainsi de suite. Mais quand on s'attache seulement sur les œuvres sans la foi au Christ, là, c'est une perte. Et les Juifs, eux, s'attachaient plus à la loi.
Amen.
Et ils ont mis de côté la foi. C'est leur erreur. Et pour nous aujourd'hui, nous devons alors considérer la foi en Jésus-Christ, et cette foi nous aidera à ne pas faire ce que Dieu refuse. Et d'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui prépare ou qui a préparé les bonnes œuvres pour nous. Voilà. Nous avons la foi. Dieu a tout préparé. Et nous allons tout simplement suivre. Merci.
Merci, pasteur José, pour l'intervention. Bien-aimés, nous sommes justes par la foi et non par la loi. Ça, c'est très important à connaître cela. Merci beaucoup, pasteur José des États-Unis. Nous donnons la parole à notre pasteur Célestin. Il sera le dernier intervenant pour ce soir, s'il vous plaît.
Oui, merci maman Christine pour la parole. Le verset 31 nous montre en fait le contraire de ce que papa José est en train de dire. Le contraire dans le sens qu'il y en a qui ont voulu être ou plaire à Dieu en utilisant les efforts, des grands efforts. D'ailleurs, la version Parole Vivante nous dit qu'ils ont par contre fait de grands efforts pour obtenir l'agrément divin. Alors, ils se sont heurtés, ils se sont butés à un échec, parce qu'ils ne pouvaient même pas tenir un dixième de la loi. Et ceci, c'est pour souligner encore combien nous sommes les privilégiés, parce que la foi que nous avons placée dans ce que la fin de notre texte parle de la pierre, une pierre d'achoppement, la foi que nous avons placée dans cette pierre d'achoppement qui est Jésus-Christ, nous justifie. Quand Dieu nous regarde, il nous trouve juste, il nous trouve justifiés. Par contre, les autres ont voulu obtenir ce que nous avons en déployant des efforts inimaginables, mais ils ne sont jamais arrivés. Quelle grâce, quel amour Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Et le verset 33, si je peux juste le lire dans la version Parole Vivante, il dit « Voici, je place en Sion une pierre sur laquelle on tombera, un rocher auquel on se heurtera. Mais celui qui placera sa confiance en lui ne sera pas déçu. Et cette pierre n'est autre que Jésus-Christ, qui a tout accompli à Jérusalem, qui est Sion, et que